Vous écoutez, on lit pour vous.
Nina, l'ado indonésienne qui se bat contre les déchets canadiens. Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 19 décembre 2024 dans Pivot. Les représentants et représentantes de 175 pays, réunis en Corée du Sud, tentent cette semaine de s'entendre sur un traité pour lutter contre la pollution plastique. Mais tous ne sont pas égaux face à ce fléau, alors que des pays comme le Canada ont pris l'habitude d'envoyer leurs poubelles vers le sud global. C'est contre cela que se bat une jeune Indonésienne qui ne manque pas de culot. Ashnina Hazara vit à 15 000 km du Québec, mais cette adolescente connaît plusieurs marques typiques des supermarchés de la belle province, comme le choix du président, Miss Vicky's ou encore les pommes de terre Mamzelle. Elle n'a goûté à rien. Elle a simplement ramassé des emballages portant ses noms près de chez elle, parmi des déchets envoyés du Canada à l'Indonésie. J'ai même trouvé ce truc vraiment bizarre. Est-ce que c'est bon, demande en montrant des sachets de riz Uncle Ben's, celle qui porte toujours un hijab noir, comme bien des femmes de l'île de Java. On ne mange jamais de riz en sachet ici, mais j'en ai trouvé tellement que je connais toutes les saveurs. Depuis son enfance, Nina vit dans un environnement pollué par les déchets plastiques, de la rivière où elle aime jouer jusqu'à l'air qu'elle respire dans son village, Ringjinamon. Dans cette campagne située à moins d'une heure de Surabaya, la grande ville de l'est de Java, de nombreuses usines de recyclage traitent à bas coût du papier usagé venu des pays du Nord. Puisqu'il existe une tolérance à la contamination, jusqu'à 2% de ce qui se trouve dans chaque conteneur, les exportateurs en profitent pour glisser des déchets plastiques de faible valeur qu'il n'est pas rentable pour les usines occidentales de recycler. Sachant que 3 millions de tonnes de papier arrivent en Indonésie chaque année. Cela fait beaucoup de plastique, sans compter que la norme légale n'est pas toujours respectée, note la mère de Nina, Daru Setiyorini, qui a cofondé l'association de conservation écologique Ecoton et a transmis sa passion à sa fille. Cela s'ajoute aux quelques 260 000 tonnes de plastique officiellement importé pour recyclage chaque année, qui doit être propre et trié. Des montagnes de plastique au milieu des volcans. Le problème a pris des proportions hallucinantes dans les dernières années, alors que plusieurs villages indonésiens se retrouvent ensevelis sous le plastique. Des résidents vont récupérer de grandes quantités d'emballages dans les usines de papier et les ramènent chez eux pour les trier. Ce qui ne peut être recyclé et jeté dans la nature ou vendu comme combustible. Près d'ici, une fabrique de tofu brûlait du plastique non recyclable pour faire cuire ses produits parce que ça revient moins cher que le bois, raconte Nina. On mange ce tofu. Et les poules mangent les cendres qui tombent au sol. Une étude menée sur des œufs d'un village de la région a trouvé des niveaux de dioxine, un contaminant pouvant causer cancer et malformations congénitales, 70 fois supérieurs aux normes européennes. C'est contre cela que Nina se bat depuis des années, aussi bien en préparant des ateliers de sensibilisation pour les jeunes de son école qu'en interpellant les leaders mondiaux. Son premier geste militant fut d'envoyer une lettre au président américain Donald Trump lors de son premier mandat, alors qu'elle n'avait que 12 ans, pour lui demander d'arrêter les exportations. J'ai reçu une réponse de son équipe 2 mois plus tard qui me disait « désolé », mais me conseillait de me tourner vers mon propre gouvernement. Comme si c'était de notre faute si on reçoit leurs déchets. Les autorités locales ont quand même bougé un peu, notamment l'an dernier, en faisant fermer et nettoyer un important village de plastique, après que quelques médias internationaux y aient suivi Nina. Cela vaut à cette dernière de mauvaises relations avec les villageois et villageoises qui gagnent leur vie grâce au recyclage. Maintenant, ils se cachent davantage, ils ne font pas tout ça au même endroit, mais dans des lieux éparpillés, explique sa mère. On le constate en allant faire un tour dans la plaine avoisinante, parsemée de bâtiments industriels anonymes ou percés au loin de majestueux volcans. Alors que nous empruntons un chemin bordé de bananiers, une montagne de plastique apparaît devant nous, paraissant sortir d'un vieux hangar. Lulu, la gérante, nous laisse entrer dans cette installation ouverte depuis 2021. 9 camions apportent du plastique chaque jour à raison de 5 tonnes chaque. Les 4 employés fouillent dans ces déchets pour trouver un peu de plastique translucide qui est revendu pour 3500 ou 4500 roupies, 0,30 à 0,40 $ du kilo, afin d'être transformé en sac. Le reste, nous n'avons pas de marché pour le revendre, alors ça s'accumule, confesse Lulu. Sur place, pas trace de déchets canadiens cette fois-ci, mais des emballages venus des États-Unis, d'Italie ou d'Australie. Silence du Canada. Dans les faits, le plastique importé représente une pollution moindre que celle due à la consommation courante des Indonésiens et Indonésiennes très mal gérée. Elle finit en grande partie dans l'environnement, ce qui fait de l'archipel de 277 millions d'habitants et d'habitantes le 2e contributeur mondial à la pollution plastique des océans après la Chine. Mais, selon Nina, les pays occidentaux ajoutent au problème alors qu'ils disposeraient de suffisamment de ressources pour gérer leurs déchets. La jeune femme a écrit à d'autres gouvernements, des Pays-Bas à l'Australie, pour leur demander de garder leurs ordures chez eux. Et même à Stephen Guilbeault, le ministre canadien de l'Environnement, qu'elle a croisé par hasard dans la rue à Ottawa en avril, alors qu'elle était invitée à prendre la parole lors des négociations pour un traité mondial sur la pollution plastique. « Il ne m'a pas répondu », regrette-t-elle. Pendant ce temps, les exportations de déchets plastiques du Canada ne cessent d'augmenter depuis 2019. Toutes destinations confondues, elles ont totalisé 202 000 tonnes en 2023. Depuis quelques années, ces exportations se font toutefois de moins en moins vers les pays non membres de l'OCDE et de plus en plus vers les États-Unis. De son côté, l'Indonésie entend mettre fin à ses importations de plastique en 2025 et resserrer les contrôles sur celui qui se faufile dans le papier. Mais, comme le notait dès 2020 un rapport d'Interpol sur le trafic de déchets suite à de telles décisions, il est très probable que le commerce des déchets plastiques continuera à s'adapter et redirigera les chargements vers de nouveaux pays vulnérables. Toutes les organisations écologistes le disent. La première chose à faire pour combattre la pollution plastique est de diminuer la production. Ce sera l'enjeu principal de la dernière ronde de négociations du traité sur la pollution plastique qui s'ouvre ce lundi à Busan, en Corée du Sud. Pour l'instant, quelques pays producteurs de pétrole et une armée de lobbyistes bloquent cet objectif et même certaines voix considérées comme progressistes. Stephen Guilbeault a ainsi estimé en avril qu'il serait trop compliqué d'y arriver. À Busan, Nina sera là et exposera ses créations. Des poupées de bébés qui nagent dans le plastique, symbolisant une contamination qui s'infiltre jusque dans les corps. D'après une étude publiée cette année, les Indonésiens et Indonésiennes sont les habitants et habitantes de la planète qui ingèrent le plus de microplastiques. Avec quels impacts sur leur santé à long terme? Nul ne le sait encore. C'était Nina, l'ado indonésienne qui se bat contre les déchets canadiens, un texte de Léa Beaulieu-Krachanov, paru le 19 décembre 2024 dans Pivot.
combattre l'âgisme, un mot à la fois, un texte de Louise Leduc, paru le 29 décembre 2024 dans la presse. Non, les personnes âgées ne jouent pas toutes au bingo. Elles n'ont pas toutes les mains très veinées d'une personne de plus de 100 ans. Et non, elles ne sont pas toutes des boomers privilégiés pleins aux as. C'est à ce genre de cliché que l'Institut de santé publique du Québec s'attaque dans son analyse récente intitulée « Représentation des personnes vieillissantes et du vieillissement dans les médias écrits d'information ». Les médias écrits, c'est nous, entre autres. Le thème interpelle d'emblée une collègue qui plaide coupable d'un vieux péché du temps où elle était jeune journaliste. Sa bourde, avoir qualifié de vieillard des personnes de 70 ans. Elle n'a jamais oublié la volée de bois vert qu'elle avait alors reçue des lecteurs. Conseillère scientifique et auteure principale de l'étude de l'INSPQ, Salma Sahil a passé en revue une cinquantaine d'études du Canada, Quotidien du Québec inclus, des États-Unis, de la Finlande, de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande, de l'Irlande, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Résultat, les stéréotypes abondent. Les personnes âgées sont souvent représentées comme un tout. Peut-on lire l'expression « OK, boomer » illustrant entre autres cette tendance à généraliser et uniformiser toute une génération, peut-on lire dans l'étude. Et les médias sont souvent plutôt prévisibles. Des images et des photos représentant les personnes vieillissantes les montrent parfois seules ou dans des environnements médicaux. Les gros plans sur des mains ou des jambes ridées sont aussi privilégiés par les médias écrits afin de préserver l'anonymat ou pour des raisons éthiques. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de mains. Comme l'indique l'auteur Salma Sahil, les personnes âgées sont souvent dépeintes comme des personnes vulnérables, isolées, moins productives, incompétentes et malades, comme un fardeau pour leurs proches ou la société. L'excès inverse. Salma Sahil relève que les médias tombent aussi régulièrement dans l'excès inverse. Le recours à une exagération positive et irréaliste des personnes vieillissantes et du vieillissement peut contribuer à perpétuer des perceptions erronées ou des attentes irréalistes quant au processus de vieillissement. L'expression « 70 is the new 50 » en étant un exemple, est-il écrit. Autrement dit, ça se peut multiplier les marathons après 80 ans et avoir une sexualité débridée. Mais c'est plus rare. Selon l'INSPQ, le vieillissement individuel devrait être abordé comme un processus qui diffère d'une personne à l'autre et qui amène son lot de possibilités, d'aspirations, d'expériences et de défis. Le fait d'associer automatiquement le vieillissement à une période de déclin, de détérioration et de fragilité inévitable est une pratique à éviter. En entrevue avec Mme Sahil, on lui soumet qu'il est tout de même rare qu'on galope davantage à 85 ans qu'à 25 et qu'il faut bien appeler un chat, non? Certes, mais l'important à ses yeux serait de présenter les personnes âgées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une population diversifiée. Dans le mot « vieux », il y a le mot « vie ». Qu'en pense l'une de nos préférées, l'actrice Béatrice Picard, aujourd'hui âgée de 95 ans? Quel conseil a-t-elle à nous donner sur notre couverture journalistique? En bonne ambassadrice des petits frères, qui a gommé des pauvres de son appellation il y a quelques années pour inclure toutes les personnes isolées, elle estime qu'il faut parler de la solitude, puisqu'elle est si présente. Au lieu de faire de la solitude un constat ou une fatalité, peut-être serait-il bon d'insister sur les façons de la prévenir, avance Madame Picard. Bien sûr, un jour, les enfants partent de la maison, on prend sa retraite, le conjoint meurt. Mais il faut éviter à tout prix de se laisser abattre. Il faut faire les premiers pas, s'inscrire dans des cours, faire partie de clubs de lecture, garder un esprit curieux, insiste-t-elle. Les articles sur les réalités que vivent les personnes âgées, la dégénérescence maculaire ou l'importance de bouger quand on a de l'arthrite, lui semblent aussi particulièrement d'intérêt. Faut-il utiliser les mots « personnes âgées »,« aînées » ou « personnes vieillissantes » ? À la lecture de l'ouvrage 80, 90, 100 à l'heure, 14 octogénaires et nonagénaires inspirants des collègues Judith Lachapelle et Alexandre Sirois, force est de constater que les personnes âgées interviewées ne se formalisent pas des mots utilisés pour les décrire. Béatrice Picard dit dans cet ouvrage « n'avoir aucune objection à ce qu'on me dise que je suis une vieille personne ». Mais si on emploie le mot « vieux », il faut que ce soit toujours avec bienveillance et gentillesse. Car dans le mot « vieux », il y a le mot « vie ». C'était « Combattre l'âgisme, un mot à la fois », un texte de Louise Leduc, paru le 29 décembre 2024 dans la presse.
Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus vieille? Un texte de Salomé Corbeau, paru le 5 juin 2024, dans Le Devoir. Si je peux me permettre, ce n'est plus vraiment de votre âge, me taquine mon ami médecin alors que je lui raconte comment je me suis blessé le genou. Il n'a pas tort. Je me suis fait mal en me chamaillant avec mon fils aîné. Depuis sa plus tendre enfance, on adore se tirailler. C'était notre façon simiesque de nous donner de l'affection. Longtemps, j'ai eu le déçu sur lui. Je pouvais le coincer avec la force d'un seul bras et lui frotter le dessus de la tête de l'autre main. Puis, vers son adolescence, nous sommes devenus de force égale. Nos batailles étaient interminables. Nos égaux prenaient le dessus et aucun de nous deux ne voulait céder. Aujourd'hui, mon fils a 28 ans. Il mesure 6 pieds 3 pouces. Il a une impressionnante carrure d'épaule et il est très fort. Aussi bien dire que c'est un gentil géant. Tandis que moi, j'ai 47 ans. Du corps de femme très athlétique que j'ai déjà eu, ne reste malheureusement que quelques traces aujourd'hui. Il était donc assez prévisible qu'un jour le gentil géant, sans aucune malice, prendrait le dessus sur sa petite mère. Résultat, une sévère entorse au genou droit. On devra attendre l'IRM pour connaître l'état des ligaments. Si je vous raconte ceci, c'est parce que je viens de réaliser, de manière un peu tardive, me direz-vous, que mon corps a vieilli, qu'il s'est fragilisé. Quand on est dans la fin vingtaine ou dans la jeune trentaine, on entend les plus vieux dire « J'oublie que j'ai 50 ans. Dans ma tête, j'en ai toujours 28. » Ce genre de phrase nous paraît souvent ridicule. Comment peut-on avoir un âge mental et un âge physique différent? Pourtant, je vous le confirme, notre esprit choisit bel et bien un âge et s'y accroche, pendant que notre corps, lui, subit la loi du temps qui passe. Bien entendu, on voit les rides et les cheveux blancs apparaître. On prend du poids et on émet des drôles de sons quand on se relève du divan. Mais on intègre complètement la notion de vieillissement que le jour où notre genou fait « crac ». Vieillir, ce n'est pas sexy, encore moins dans nos sociétés qui carburent à la performance. Si rester en forme et en santé est un moteur pertinent, vouloir rester jeune est un objectif complètement vain, parce que voué à l'échec. Pourtant, c'est comme ça qu'on nous vend toutes sortes de choses. Des crèmes qui sont censées donner à notre peau une apparence plus jeune, des programmes d'entraînement pour retrouver le galbe de nos 20 ans, des aliments miracles pour retrouver un teint de pêche. La liste est longue. Et je ne parle même pas de tout ce que propose l'industrie de la chirurgie esthétique. Loin de moi l'idée de juger les personnes qui ont recours à ces procédés pour ralentir les signes du temps qui passent sur leur corps et leur visage. Mais la question fondamentale que je me pose est la suivante. Pourquoi sommes-nous si mal à l'aise avec le vieillissement? Pourquoi la périménopause, en plus de ses affreux symptômes, est un moment douloureux psychologiquement pour les personnes qui la vivent? Depuis que le décompte de mes derniers ovocytes a commencé, je me sens moins femme, moins prise en compte par mes pairs aussi, moins valable. Pourtant, je suis encore très loin de l'âge de la retraite. Je suis encore capable de soulever de lourdes charges. J'ai encore beaucoup d'énergie malgré les montagnes russes hormonales. J'ai une meilleure compréhension de mes mécanismes de défense. J'ai plus de compassion et d'empathie envers les autres. J'ai plus de connaissances et d'expérience. Seulement, voilà, je suis vieille, particulièrement dans le regard de mes jeunes collègues. J'ai été cette jeune fille qui regardait les personnes plus âgées avec un mélange de tendresse et de malaise devant leurs bras mous ou leurs lunettes de presbytie. J'étais toujours surprise et même admirative quand une femme ne faisait pas son âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire son âge? Et pourquoi avoir l'air de 52 ans, ce serait mal? Avons-nous collectivement si peur de mourir que nous commençons, 40 ans avant notre date de péremption, à trouver qu'on sent déjà le lait caillé? Entre mon genou qui craque, l'image que me renvoie la société et ma propre vitalité, peu de choses, à vrai dire, concordent. Je comprends mieux pourquoi certains parlent de la crise de la cinquantaine. C'est un moment où nous sommes en perte de repères, comme nous l'étions à l'adolescence. On a du mal à trouver notre place dans la société. On se sent moins adéquat, moins valorisé. Je peux mieux comprendre maintenant l'envie de tout plaquer pour s'acheter une décapotable ou pour refaire sa vie au Costa Rica. Nous sommes en quête d'adrénaline pour nous prouver qu'on est encore capable, encore vivant. Je pense aux gens de 80 ans qui liront cette chronique et qui vont probablement me trouver bien sotte de penser que je suis vieille à 47 ans, et ils auront raison. Je devrais me regarder dans le miroir et y voir un soleil de 15 heures par une belle journée d'été. Un soleil qui n'est plus au zénith, mais qui est encore loin de se coucher, qui éclaire et qui réchauffe encore suffisamment la terrasse pour qu'on puisse en profiter. C'était « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus vieille? » Un texte de Salomé Corbeau, paru le 5 juin 2024, dans Le Devoir.
Quoi retenir de la réforme de la collecte sélective? Un texte de François Carabin, paru le 2 janvier 2025 dans Le Devoir. La refonte du système de collecte sélective est entrée en vigueur mercredi le 1er janvier 2025. L'objectif du gouvernement: simplifier le tri des matières résiduelles dans les maisonnées, ce qui amènera certains changements dans votre bac de recyclage. Le Devoir vous aide à y voir clair. Que puis-je mettre dans mon bac de recyclage? Pas juste du papier et du carton. L'organisme chargé de la collecte depuis l'entrée en vigueur de la réforme, Éco-entreprise Québec, a produit une ligne directrice simple à l'intention des citoyens de toute la province. Si c'est un contenant, un emballage ou un imprimé, ça peut aller dans le bac, quel que soit le matériau. Cela veut dire qu'une bouteille d'huile d'olive en verre, une boîte de sauce tomate en métal, un magazine en papier verni, une retaille de papier d'aluminium et un emballage en plastique vont tous dans votre sac bleu ou vert selon la ville. Même les emballages de nourriture en polystyrène, comme ceux qui contiendraient la poutine extra-large du casse-croûte local, peuvent être récupérés, tant que les restes de sauce brune sont rincés à l'eau avant la mise au bac. À retenir, il n'est plus nécessaire de vérifier si ce que vous voulez récupérer est marqué d'un symbole de recyclage, ni même si celui-ci compte un numéro, tant qu'il s'agit d'un contenant, d'un emballage ou d'un imprimé. Existe-t-il des exceptions? Oui. Bien entendu, si l'objet que vous voulez mettre au bac ne correspond pas à une des trois catégories évoquées plus haut, il n'est pas récupérable. Les ustensiles en plastique, par exemple, devront être mis aux poubelles. Même chose pour tous les contenants à longue durée, comme une glacière, une casserole ou un coffre à outils. L'utilisateur peut toujours en faire don si le dit contenant est encore en bon état. Rien de nouveau ici. Tout contenant aérosol devra être acheminé vers votre éco-centre local. Les piles, les batteries et les ampoules aussi. Le polystyrène, expansé, qu'on trouve souvent dans les emballages de meubles ou d'électroménagers et qu'on reconnaît par sa tendance à se défaire en petites billes, va pour sa part aux poubelles. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Il vaut mieux éviter de mettre au bac du carton ou du papier trop souillé par la nourriture. Si le contenant ou l'emballage est très sale ou imbibé, il peut cependant aller dans le compost, soutient Éco-Entreprise Québec. Il est aussi recommandé de séparer les différentes matières d'un même contenant. Prenons l'exemple d'une boîte de biscuits. Tout y est désormais récupérable, même la pellicule de plastique qui permet de garder les biscuits frais, mais ça ne veut pas dire qu'elle devrait aller au bac en un seul morceau. Il est aussi préférable que le couvercle en métal d'un contenant de confiture soit détaché de son pot en verre. L'exception à la règle? Les petits bouchons de moins de 5 cm de circonférence doivent rester sur leur contenant original pour ne pas tomber entre les mailles du filet, écrit Éco-Entreprise Québec. On peut également faire des boulettes avec son papier d'aluminium avant de le placer au recyclage. Quelles sont les prochaines étapes de la réforme? Pour l'instant, la refonte de la collecte sélective ne s'applique que dans les résidences, dans les établissements d'enseignement, à l'exception des universités, et dans certaines industries de petite taille. Les commerces et les universités suivront en 2027, puis l'ensemble des industries en 2030. Les contenants de bois, de liège, de céramique, de porcelaine et de tissu devraient par ailleurs être acceptés dans les bacs de recyclage à partir de 2027. La consigne devait être élargie cette année aux verres et aux contenants multicouches, comme les berlingots de lait, mais cette réforme a été reportée à 2027 en raison de problèmes de gestion au sein de l'organisme chargé de l'amener à terme. C'était « Quoi retenir de la réforme de la collecte sélective », un texte de François Carabin, paru le 2 janvier 2025 dans Le Devoir.